Pose ta main, revêt-le de ton autorité. Pose ta main, donne-lui, Seigneur, de proclamer uniquement ce qui vient de ton cœur. Car il n'y a que ce qui vient de toi qui est de nature à nous transformer à ton image, qui est de nature à rencontrer véritablement nos besoins. Il n'y a que ce qui vient de toi, Seigneur, qui est susceptible de manifester ta gloire dans nos vies, de faire de nos vies des vies incandescentes, des vies rayonnantes, des vies qui te reflètent. Parle-nous, fais-nous du bien. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons acclamer évidemment la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'a pas été facile de trouver un thème pour ce dimanche matin, qui est donc, comme vous le savez, le premier dimanche de l'année 2020, qui est donc le premier dimanche de cette année nouvelle dans laquelle nous sommes entrés. Ça n'a pas été facile, mais ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que quand nous le cherchons dans la prière, dans la méditation de sa parole, il finit toujours par nous donner, eh bien, sa pensée. Alléluia. Ce matin, je voudrais donc parler de l'attente de Dieu pour chacun de nous. Nous avons tendance, dans la plupart des cas, de mettre l'accent sur nos attentes par rapport au Seigneur, et ce, à juste titre, puisque nous avons des attentes, puisque nous avons des besoins, et du reste, nous l'avons chanté, des besoins qui ne peuvent être rencontrés que par le Seigneur lui-même. Lui seul a le pouvoir, mes amis, de rencontrer nos besoins, quels qu'ils soient. Alléluia. Lui seul est capable de pouvoir satisfaire nos attentes, évidemment des attentes qui soient en harmonie ou en conformité avec sa volonté. Que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous tourner vers le Seigneur, que nous puissions nous tourner vers son cœur et essayer de voir quelle est son attente par rapport à chacun de nous. C'est important puisque nous sommes dans le tout début de cette nouvelle année. Et savoir ce qu'il attend de nous dès le départ, eh bien, nous permettra d'avoir une bonne gestion de l'année 2020, puisque nous saurons ce qu'il attend véritablement de chacun de nous. Alléluia. Ça nous permettra, mes amis, de fixer le cap, mais alors le cap dans la direction de Dieu. Ça nous aidera à comprendre certains événements qui vont marquer cette année, à comprendre certaines circonstances, quelle que soit leur nature, qui environneront d'une manière ou d'une autre, eh bien, notre vie. L'attente de Dieu pour chacun de nous. Nous allons lire simplement un verset. Un verset dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, le verset 26. Mon fils, je pourrais ajouter sans attrister le Saint-Esprit, ma fille, puisque cette parole ne s'adresse pas qu'aux hommes, elle s'adresse également aux femmes. Il faut replacer tout cela dans le contexte vétérotestamentaire. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Une parole très simple, mais qui exprime, mes amis, ce que Dieu attend de chacun de nous. Alléluia. Et c'est à juste titre, comme je viens de le souligner, nous sommes encore au début de l'année. Et c'est donc important que nous sachions ce que Dieu attend véritablement de chacun de nous. Oui, en ce premier dimanche de l'année 2020, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous, non pas sur nos attentes qui sont multiples, et qui sont justes, dont certaines, ou même beaucoup sont justes aux yeux de Dieu, nos attentes par rapport à Dieu, en ce qui concerne cette nouvelle année dans laquelle il nous a fait entrer, non pas sur ces attentes-là, mais je voudrais attirer notre attention sur l'attente du Seigneur, l'attente de celui qui un jour a donné sa propre vie à Golgotha pour chacun de nous, l'attente de ce Dieu qui, après avoir été avec nous tout au long de l'année 2019, a permis que nous entrions dans cette nouvelle année avec lui. S'il nous a fait entrer dans cette nouvelle année, c'est qu'il a quelque chose qu'il attend de nous, n'est-ce pas? Certes, nous avons des attentes des attentes que nous aimerions que le Seigneur puisse les rencontrer, et les vœux que nous nous sommes présentés ou souhaités, que ce soit à la fin de l'année dernière ou au début de cette année, ces vœux-là, mes amis, sont une illustration de toutes ces attentes-là. Nous nous sommes présentés les vœux le meilleur, des vœux de bonne santé, des vœux de joie et de bonheur, des vœux d'amour, de paix et de joie. Tout cela, mes amis, est tout à fait correct. Tout cela, eh bien, rencontre l'aspiration de chacun de nous. Je ne pense pas qu'il y ait un seul homme, une seule femme ce matin, qui puisse, lui, préférer, souhaiter que cette année soit une année où il va être hospitalisé 5 fois. Une année où il aimerait connaître beaucoup d'échecs. Une année où il aimerait, connaître la famine, la privation, et connaître toutes sortes d'humiliations, pas du tout. Nous aspirons tous, et c'est à juste titre, à une vie remplie de paix, à une vie remplie de joie, à une vie remplie de succès et de réussite. Alléluia. À une vie merveilleuse. Vous voyez, et cela, mes amis, rencontre la volonté de Dieu. Car le Seigneur ne nous a pas créés pour le malheur. Il ne nous a pas créés pour l'échec. Il ne nous a pas créés pour la malédiction, pas du tout. Toutes ces choses terribles qui empoisonnent l'existence de l'homme, toutes ces choses qui sont des véritables toxiques pour l'homme, toutes ces choses-là, mes amis, sont la conséquence du péché, de la désobéissance de l'homme envers son Créateur. Le monde, notre humanité, est sur la voie de la perdition. Et chaque jour qui passe, eh bien, amène notre humanité sur cette pente mortifère qui la conduit tout droit vers la ruine et la destruction. On peut maintenant arrêter. Et la destruction. Voyez-vous, chaque jour qui passe nous montre combien, mes amis, notre monde est de plus en plus dominé par les puissances de l'abîme, par les puissances démoniaques. Vous n'avez qu'à voir combien la méchanceté fleurit et prospère partout. Vous n'avez qu'à voir, mes amis, les proportions que le péché est en train d'atteindre. Aujourd'hui, on adore l'homme. Aujourd'hui, on déifie l'homme. Aujourd'hui, on essaye par tous les moyens de se passer du Créateur. Aujourd'hui, eh bien, c'est le plaisir à tout prix, l'hédonisme. Voyez-vous, le plaisir qui devient le but suprême de la vie. Il faut se faire plaisir. Il faut écouter son corps et faire tout ce que son corps demande. Voilà les slogans, hélas, qui ponctuent la vie de beaucoup de nos contemporains. Voyez-vous, tout cela est la conséquence du péché. Tout cela entraîne, mes amis, le jugement de Dieu sur l'humanité. Et laissez-moi vous dire une chose, la nature est en train de se rebeller, car même la nature ne supporte plus cette façon de vivre de l'homme fait à l'image du Créateur. Un peu partout, l'homme est comme au pied du mur. Nous avons laissé la convoitise nous conduire. Nous avons laissé la cupidité nous posséder. Et nous nous sommes lancés dans une vie de consommation. Et ce consumérisme, mes amis, c'est cette façon de consommer nous a transformés en des véritables porcs, à des hommes et des femmes qui ne voient que le plaisir, qui ne voient que la consommation, oubliant qu'en nous créant, en ayant permis que nous voyons le jour, peu importe où nous nous situons sur la terre, Dieu avait un plan, et Dieu a un plan pour chacun de nous, alléluia. Donc c'est dans la volonté de Dieu que nous prospérions à tous égards. Il veut nous accorder du succès, à lui soit la gloire. Cependant, c'est sur l'attente de Dieu que je voudrais attirer notre attention sur ce que nous pouvons lui donner et qui puisse réjouir son cœur de père. Il fait tant de choses pour nous. Il nous accorde toutes sortes de bienfaits. Et en face de ces bienfaits, comment réagir? Comment avoir une réaction, mes amis, qui puisse lui plaire, qui puisse le réjouir, qui manifeste véritablement notre reconnaissance, notre gratitude? Attirer notre attention sur ce que nous pouvons lui donner en réponse à son amour. Alléluia. Cet amour, mes amis, qui nous a accompagnés tout au long de l'année 2019. Cet amour au nom duquel nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Parce qu'il est amour, eh bien, il nous accorde toutes sortes de bienfaits. Parce qu'il est amour, il nous prête très généreusement son souffle de vie, cette haleine vitale qui nous anime. Parce qu'il est amour, eh bien, il fait lever le soleil, non seulement sur ceux qui le connaissent et qui marchent en conformité avec sa parole, mais il fait lever son soleil également sur les méchants, sur les incrédules, sur les rebelles. Il nous envoie la pluie, il nous donne l'oxygène. Alléluia. Tout cela, mes amis, sont la manifestation de la bienveillance de Dieu. Et à la base de cette bienveillance, il y a l'amour. L'amour. Alors, en d'autres mots, que pouvons-nous donner comme cadeau, si je puis m'exprimer ainsi, même si la période d'échange des cadeaux est derrière nous, mais il n'est jamais trop tard pour faire cadeau à quelqu'un qu'on aime, oui ou non? Oui ou non? Il ne faut pas attendre Noël, il ne faut pas attendre une occasion spéciale pour enfin faire plaisir à quelqu'un en lui donnant un cadeau. Oui, donc, mais quel cadeau pouvons-nous faire à Dieu qui soit la seule, la vraie, l'unique réponse à l'amour qu'il a pour nous? Il fait tant de choses. Regarde-toi, mon frère, ma sœur. Il y a encore quelques années, tu ressemblais à un chiffon. Il y a encore quelques années, tu étais nulle part, un clochard. Il y a encore quelques années, ta vie était ruinée, détruite par une consommation effrénée d'alcool. Il y a encore quelques années, tu passais du temps dans tous les gandas de tous les bars de Kinshasa. Il y a encore quelques temps, ta vie ressemblait, mes amis, à une pourriture morale. Mais aujourd'hui, tu es un homme respectable. Aujourd'hui, tu jouis d'une certaine respectabilité. Aujourd'hui, tu es une femme respectable. Tout cela parce que l'amour de Dieu est passé par là. Oh, alléluia. Celui qui nous accorde tous ses bienfaits. Sans lui, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut se le dire, mes amis, surtout au début de cette année. Ne pensez pas que ce que vous êtes devenu est simplement le fruit de votre intelligence. Ne pensez pas que le titre, les responsabilités que vous avez aujourd'hui sont dues simplement au fait que vous êtes passé par la meilleure des universités. Pas du tout. Il y en a qui sont plus intelligents que vous et qui pourtant ne sont nulle part. Ils vont de cabinet en cabinet avec des dossiers. À force de transporter leurs dossiers, eh bien, leur seule veste qu'ils ont finit par s'user. Voyez-vous. Ce que nous sommes devenus et ce que nous sommes appelés à devenir est le produit de la grâce de Dieu. Et à la base de cette grâce, il y a l'amour. Cet amour dont les dimensions sont au-delà du compréhensible. Cet amour dont les dimensions sont au-delà, mes amis, de toute compréhension humaine. C'est un amour qui ne peut être saisi et compris par révélation. Alors, quelle peut être notre vraie réponse à cet amour de Dieu envers nous? Cet amour qui l'amène à nous accorder son pardon? Combien de fois nous avons péché? Depuis que cette année a commencé, nous sommes au cinquième jour. Mais combien le péché est passé par notre vie? Il aurait pu, dès le départ, nous juger sévèrement, mes amis. Cependant, il a usé de patience. Oui, il use de patience, car il n'a qu'une seule volonté. Que vous arriviez un jour à partager son ciel de gloire. Car il n'a qu'une seule volonté, c'est de vous voir un jour entrer dans la félicité éternelle avec lui, dans son royaume de gloire. L'amour. Quelle peut être notre vraie réponse à cet amour qu'il a pour nous, mes amis? Mes amis, la Bible, la parole de Dieu affirme une chose formidable. Une chose extraordinaire concernant Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une déclaration qui surpasse absolument, absolument tout ce qui n'a jamais été dit sur un Dieu, quel qu'il soit. Cette déclaration se résume en une phrase de trois mots. Trois mots. qui sont comme une clé qui ouvre les portes des puissantes écluses, capables de transformer, capables de métamorphoser toute vie humaine et toute pensée sur cette terre. Ces trois mots restent la base sur laquelle repose toute la révélation de Dieu à l'humanité. Trois mots qui restent, mes amis, qui sous-tendent, qui constituent l'une des plus grandes révélations du Dieu créateur à son humanité, ou à l'humanité, à l'homme, faire son image. Trois mots qui résument tout le message de la Bible. Dieu est amour. Oh, alléluia. Dieu est amour. Mes amis, il n'y a pas de plus grande déclaration que cela. Pas de plus grande révélation que cette déclaration magistrale que nous trouvons dans la parole de Dieu. Concernant ce Dieu qui est créateur de toutes choses, concernant ce Dieu qui soutient toutes choses, concernant ce Dieu qui tient nos vies dans sa main et qui nous attend dans l'éternité pour nous demander des comptes quant à la manière dont nous aurons géré cette vie. Mes amis, en dehors de la Bible, et je le dis haut et fort, en dehors de la Bible, aucun autre livre religieux ou sacré ne contient une telle déclaration. Nous trouvons dans notre monde beaucoup de mouvements religieux, inspirés par tel ou tel autre prophète, par tel ou tel autre conducteur spirituel. Nous trouvons, mes amis, des mouvements politico-philosophico-religieux, toutes sortes de tendances idéologiques. Nous trouvons dans ce monde beaucoup de pratiques religieuses et spirituelles. Mais vous ne trouvez nulle part, dans aucun autre livre, que la Bible, ces déclarations du Créateur comme étant amour. Nulle part il est dit, pour les adorateurs de Krishna, Krishna est amour. Nulle part il est dit, Bouddha est amour. Il y a des religions où leur Dieu est présenté comme étant le béni, le miséricordieux, les cléments, et c'est tout. Il n'y a que la Bible, oh gloire à Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui déclare de manière magistrale, de manière solennelle, que Dieu est amour. Si tu es là, c'est parce qu'il est amour. Si la terre est là et qu'elle poursuit sa révolution autour du soleil, exposée à toutes sortes de dangers cosmiques, si la terre tient encore, malgré le péché qui gangrène l'humanité, si la terre, mes amis, est là, continuant sa course, tournant sur elle-même, si le système solaire dans lequel nous sommes est là et tient, si tout l'univers tient, c'est qu'il y a une main visible. Cette main visible, c'est celle du Dieu qui est amour. Nous sommes exposés à toutes sortes de dangers. Si vous suivez l'évolution de la science, en particulier de la cosmologie ou de l'astronomie, vous verrez qu'il y a un peu partout dans le monde des gens qui scrutent le cosmos à tout moment, à la recherche de certains objets, météorites, astéroïdes, des géocroiseurs qui pourraient, mes amis, s'abattre sur notre monde et détruire toute vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est bien qu'ils fassent tout cela, mais je sais une chose. Cela ne va pas arriver tant que l'Église du Christ n'est pas encore enlevée. Nulle part. Le Seigneur a dit, je reviendrai vous chercher. Il viendra nous chercher vivants. Non pas après une catastrophe, je ne sais quel astéroïde. Ça pourra arriver plus tard, mais il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui veille. C'est le Dieu d'Israël. C'est celui qui est assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles. Il n'est jamais dépassé. Oui, nulle part, nous trouvons dans un livre mystique ou autre où il est dit « Dieu est amour ». Si ce n'est dans sa parole, sa parole infaillible, inhérente, que la Bible, oh, alléluia. Alors, face à ce Dieu d'amour qui nous aime, mes amis, d'un amour qui est au-delà de toute compréhension, d'un amour incommensurable, profond, aux dimensions éternelles, que lui donner? Qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous? Eh bien, c'est ce que nous avons lu. Alléluia. Merci. C'est ce que nous avons lu. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est tout. Alors que nous sommes dans le tout début de cette année, voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu lui donnes ton cœur. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta célébrité. Il n'a pas besoin de tes compétences, de tes talents, quels qu'ils soient. Du reste, tout cela, c'est de lui que tu tiens ça, oui ou non? C'est de lui. Alors, qu'est-ce que tu peux lui donner que tu n'aies reçu de lui? Ce qu'il attend de toi, non seulement dans ce mois de janvier, mais également dans le mois, au mois de février, jusqu'à la fin de l'année, mais aussi l'année prochaine, mais aussi jusqu'à ce qu'il nous, soit qu'il nous reprenne auprès de lui, ou alors qu'il revienne, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui donner notre cœur. Alléluia. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donner notre cœur à Dieu. Voilà la chose la plus importante qui soit. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Mais lorsque nous essayons de nous attarder un tout petit peu sur cette demande de Dieu, eh bien, nous réalisons tout de suite que cette demande a de quoi nous surprendre. C'est vrai. Elle a de quoi nous surprendre. Car comment voulez-vous que celui qui est le créateur de l'univers, le créateur de la terre et de tous ses habitants, celui de qui nous tenons cette vie, comment peut-il encore nous demander ça? Alors que tout cela lui appartient. Regardez comment Dieu est amour, mes amis. S'il décide aujourd'hui que tel ou tel autre passe dans l'éternité, la chose va s'accomplir sur le champ. Eh oui. Personne ne peut lui résister. Vous savez, quelquefois, nous avons une conception un tout petit peu erronée de Dieu. Nous essayons de nous imaginer que dans la hiérarchie créationnelle ou de la création, eh bien, nous avons toute forme de vie, hein. Et puis nous remontons, nous arrivons à l'homme, et puis nous arrivons aux anges, hein. Et puis nous arrivons aux archanges, tout ce que vous voulez, et puis à Dieu. Ça, c'est une conception erronée. C'est ainsi que certains ont fini par présenter le diable comme étant l'alter ego de Dieu. C'est-à-dire, le diable est là, au sommet, Dieu aussi est au sommet. Même si Dieu arrive à écraser le diable, mais ils sont là. C'est une conception fausse, erronée. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu est environné d'une lumière inaccessible. Il y a un gouffre infranchissable qui sépare le Créateur du diable. Il y a un gouffre infranchissable qui sépare, mes amis, le Créateur avec toute forme de vie, avec les archanges, avec les chérubins, avec l'homme, avec tout. Autant il y a un gouffre abyssal entre un animal et un homme, entre un animal et un ange. Autant il y a, mes amis, un gouffre infranchissable entre le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, entre le Seigneur Jésus-Christ et tous les restes, dont il est revêtu d'une lumière inaccessible. Il est au-dessus de tout. C'est ainsi que, lors du dernier jugement, ce n'est même pas le Seigneur qui va prendre le diable pour le jeter dans la géhenne, dans le feu ardent. Non, c'est un ange comme lui qui va s'occuper de lui. Oh, alléluia. Car le Seigneur est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas le comparer. Il est au-delà de toute comparaison. Alléluia. Alors, mes amis, il y a de quoi nous réjouir. Notre Jésus est au-delà. Au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Il nous aime. Alors comment quelqu'un à qui tout lui appartient, le propriétaire suprême de tout, comment nous demande-t-il encore de lui donner notre cœur, notre vie, alors que tout ce que nous avons, c'est de lui que nous l'avons reçu. Eh bien, mes amis, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et par conséquent, il nous a dotés du libre arbitre, de cette liberté que nous avons de choisir pour le bien ou pour le mal. Nous le voyons déjà dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, le Seigneur a créé l'homme à sa ressemblance, à son image. Voyez-vous, il a doté l'homme de cette capacité de choisir en toute liberté le libre arbitre. Et Dieu s'attend à ce que chacun de nous choisisse librement de le suivre. Il ne veut pas avoir une bande de fanatiques ou d'intégristes. Il ne veut pas avoir avec lui les gens qui seraient forcés de le suivre. Non! Lorsqu'on force quelqu'un à être notre épouse ou notre mari, c'est qu'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se décide. C'est pourquoi cette histoire de coup de foudre, eh bien, ce n'est pas de l'amour. C'est une décharge émotionnelle. Voyez-vous, hein, c'est tout. Oh là là là, quel bel homme. Ouh, j'ai jamais vu d'homme aussi rayonnant, aussi merveilleux que cet homme-là. Depuis que je le vois, je ne dors plus. Oh, s'il pouvait m'épouser, tout ça. Ou alors, quelle belle fille. Oh là 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 là. Elle marche comme un paon. Comme une biche, une véritable gazelle. Voyez, quelle vénusité. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Vous savez, Vénus, c'est la déesse de la beauté. Donc, belle comme Vénus entre eux, même si la beauté est relative. Et puis, oh, je suis tombé, j'ai un coup de foudre. Oui, ce qui commence par un coup de foudre, se termine par la foudre. Donc, ne vous étonnez pas qu'un jour, l'autre prenne ses clics et ses claques et s'en aille, hein. Ah, mais oui, parce que ça a été un choix irrationnel. Tu as suivi, oh, comme ça, c'est lui, et puis, hop, hein, tu avais une image un peu fausse. C'est le plus bel homme, et tout ça, le plus beau, etc. Et quand tu arrives là-bas, tu te dis, mais c'est pas possible, ça c'est un chacal. Mais bon. Donc, il nous demande, parce qu'il veut que nous choisissons librement, alléluia. Il ne veut pas prendre notre cœur par la force. Dans ces cas, on ne parlerait pas d'amour. C'est ainsi que depuis l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Voilà. Il a donné le commandement à Israël. Israël était libre d'obéir ou de ne pas obéir. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Le vrai christianisme ne force pas les gens. On ne prend pas les gens par la gauche en leur disant « Crois au Seigneur Jésus-Christ ou tu vas mourir. » Il y a des parents qui forcent leurs enfants. Ça ne sert à rien. Ils vont venir simplement pour vous faire plaisir. Ou même pendant qu'ils sont là-bas, pendant que toi tu es là concentré, là à côté, ils consultent son smartphone. Ça ne sert à rien. Il faut leur simplement montrer le bien fondé du choix que vous avez fait de suivre Jésus. Pourquoi vous avez choisi dans votre cœur de suivre Jésus et non pas tel ou tel autre aventurier de prophète. Oui, lui donner notre cœur. Voilà ce qu'il attend de chacun de nous. Il réclame notre présence par cette demande. Il veut être intimement proche de nous, car il nous a créés pour lui. Et il sait, mes amis, que nous ne pouvons accomplir notre raison d'être ici-bas que si nous en prenons à nous attarder davantage en sa présence que si nous avons une relation de plus en plus intime avec lui. Voyez-vous, le Seigneur, mes amis, en nous demandant de lui donner notre cœur, a bien des raisons. Eh oui, nous trouvons à travers la parole de Dieu tant de raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande de lui confier, de lui offrir, de lui donner notre cœur. Et quand nous parlons de notre cœur, nous parlons de la totalité de notre vie, âme, esprit et corps. Voyez-vous, car l'homme est un. Vous ne pouvez pas dire, là, c'est mon âme qui a péché, mais pas mon corps. Vous dites, c'est mon corps. C'est mon corps qui a pris, mais ce n'est pas moi. Ma main est allée, a pris ce GSM ou ce smartphone, mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai dit non, non, mais ma main a pris, non. Voilà. Même un schizophrène qui souffre de cette déchirure au niveau de sa personnalité, il est corps, âme, esprit, il constitue une seule entité, n'est-ce pas? Donc, il a bien de raisons. Et pour aller plus vite, comme je l'ai souligné, nous ne pouvons pas jouir pleinement, véritablement, de la vie que dans la mesure où nous déposons notre cœur, notre vie, dans les mains de notre Père. Alléluia. Plus nous allons donner ce cœur au Seigneur, plus alors nous pourrions jouir pleinement de la vie. Donner ce cœur à Dieu est déterminant, mes amis, pour chacun de nous, si nous voulons avoir, connaître une année 2020 qui soit une année de gloire, une année de victoire, une année remplie de succès et de réussite. Si nous voulons que 2020 soit une année où nous allons rayonner de sa gloire, où nous allons briller de sa lumière, où nous allons brûler de son feu, une année où nous allons être véritablement le sel de la terre, la lumière du monde, une année, et nous l'avons chanté, mes amis, où nous allons expérimenter l'accomplissement de ses promesses, si nous voulons que tout cela devienne une réalité que nous expérimentons au quotidien tout au long de cette année, alors, mes amis, acceptons de donner notre cœur au Seigneur. Acceptons d'accéder à sa demande. Répondons favorablement. Répondons positivement à cette demande. Faisons ce choix de lui confier notre vie. Alléluia. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, mes amis, car quelquefois on se dit, bon, si je lui confie ma vie, comment vais-je vivre? Non! Il a promis de pourvoir à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Alléluia. Voyons maintenant les raisons, et nous verrons juste une raison, puisque nous continuerons la fois prochaine. Une raison pour laquelle nous devons absolument donner notre cœur à notre Dieu. Première raison, il y en aura d'autres. Pendant 2 ou 3 dimanches, nous parlerons de tout ça, puisque c'est important, alors que nous sommes encore au début de l'année, comme je viens de le dire. Cela va déterminer la manière dont nous allons gérer cette année 2020. La première raison, c'est que Dieu nous demande notre cœur afin de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Voilà la première raison, mes amis. S'il nous a sauvés, c'est dans un but. Et le but ultime que Dieu poursuit dans nos vies, au travers des circonstances bonnes ou défavorables, accablante ou prospère, le but que Dieu, ultime que Dieu poursuit, c'est de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Et gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu attend, que nous puissions ressembler à Jésus. Que ceci, mes amis, soit une décision pour nous de ressembler à Jésus en tout. Et que cela nous amène à nous poser à chaque fois la question, cette question: que ferait Jésus à ma place? L'acte que je voudrais poser, ce geste-là, est-ce que Jésus le poserait? Est-ce que Jésus entretiendrait cette haine, cette cupidité, cette convoitise? Voyez-vous, tout cela n'est possible que si nous acceptons à lui confier notre vie. Mes amis, il existe deux modèles de vie. Nous trouvons sur cette terre deux modèles de vie fondés, basés sur deux visions de la vie. La première vision, le premier modèle, c'est le modèle selon le monde. Le monde a sa vision de la vie. Le monde a ses valeurs. La culture, notre culture, la culture dans laquelle nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, a son ses standards, a ses principes, a ses valeurs. Et selon ces paramètres-là, on peut nous considérer, on peut nous reconnaître comme étant des gens du bien, des gens riches, des gens puissants, selon les normes de la société ou de la culture, comme des gens beaux, n'est-ce pas? Oui, d'une région à l'autre, les critères de beauté varient. D'une région à l'autre, d'une culture à l'autre, la notion même de grandeur varie. Eh bien, selon les normes de la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons être considérés comme des gens du bien, des gens intelligents, des gens grands, puissants, dans certaines cultures, marqués par la polygamie. Eh bien, la grandeur d'un homme se mesure au nombre de femmes qu'il a. Et du coup, au nombre d'enfants qu'il a. Plus on en a, plus on devient important au village, oui ou non? Voilà. Eh bien, dans cette société-là, pour être grand, il faut avoir tout un harem, toute une cour constituée de femmes, toute une ribambelle d'enfants. Voyez? Et avec le temps, on arrive même à ne plus reconnaître certains. Quand ils arrivent, ils disent, tu t'appelles comment? Papa, moi c'est Jules. Ah, Jules! Ah oui, mais parce qu'on en a 68. Ah bon. On entend des choses dans notre chère Afrique. Voilà. Il y en a qui ensemencent partout. Ouais. Donc, selon les paramètres de telle ou telle autre culture, nous pouvons être reconnus comme étant grands, etc. Ça, c'est le modèle selon le monde. Mais il y a aussi le modèle établi par Dieu. Voyez-vous? Et vivre selon ce modèle, eh bien, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. C'est donc vouloir ressembler au modèle parfait. Et le modèle parfait n'est autre que le Christ, alléluia. Ce n'est pas un homme. Un homme peut nous inspirer. Un homme peut être un modèle pour nous. Mais au-delà, le modèle ultime reste le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et vivre selon le modèle établi par Dieu, eh bien, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est se laisser, c'est marcher, non pas par la vue, mais par la foi. C'est marcher selon les principes, selon le standard de Dieu. Et les deux mondes, eh bien, sont antipodes l'un de l'autre. Les valeurs du royaume, les principes du royaume qui gouvernent le royaume de Dieu, sont donc aux antipodes des valeurs, des principes, mes amis, de ce monde qui se perd. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc habités par le plus grand idéal qui existe sur la terre. Quel est cet idéal, le plus grand, mes amis, c'est lequel? Eh bien, c'est ressembler à Jésus-Christ, alléluia. Voilà donc, mes amis, ce qui devrait et qui doit nous habiter, vouloir absolument ressembler à Jésus-Christ, alléluia. Être comme le Christ. Être comme le Christ. Comment voulez-vous être comme le Christ si vous n'apprenez pas à donner votre cœur au Seigneur? Vous ne pouvez pas par vous-même vous changer. C'est impossible. Mes amis, c'est impossible. Le but ultime de Dieu est de nous rendre semblables à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà notre raison d'être. Et tout au long de cette année que nous cherchons absolument à donner à Dieu notre cœur, afin qu'il puisse, lui le divin potier, le modeler, le façonner, de manière à ce que nos vies soient des vases d'honneur, des vases qui contiennent la vie du Christ et qui ressemblent au Christ. Romains 8, 29 nous le dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ressembler à Jésus. Au fur et à mesure que notre ressemblance avec lui s'affirme, eh bien nous découvrons alors notre vraie identité et la personne que Dieu nous appelle à être. Être comme lui, lui ressembler en toutes choses. Mais comment pouvons-nous devenir comme le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, d'abord, ce n'est pas par nos propres efforts. C'est impossible. Aucun homme ne peut se transformer et tout d'un coup ressembler à Christ. Vous pouvez aller dans une école biblique, aller dans une faculté de théologie, y entrer comme vous êtes et en sortir comme vous êtes. Vous pouvez aller dans un séminaire, dans un couvent, je ne sais quoi, une institution religieuse. Mais ce n'est pas cela qui vous transformera à l'image du Christ. Non, mes amis, la Bible est claire. Ce n'est ni par la puissance religieuse, par la puissance de l'argent, la puissance philosophique, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit le Seigneur. Donc c'est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui peut nous transformer et nous faire ressembler à Jésus. Et pour cela, nous devons répondre positivement à la demande de Dieu. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors comment le Saint-Esprit peut-il nous transformer à l'image de Christ? D'abord par la parole de Dieu. Cette parole, mes amis, est inspirée, ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et ils ont couché par écrit, eh bien, cela. Et c'est ce que nous appelons la Bible, alléluia. Eh bien, par cette parole, en la méditant, en l'étudiant systématiquement, en l'écoutant, en multipliant, eh bien, les contacts avec cette parole, en obéissant à cette parole, vous donnerez l'occasion au Saint-Esprit de travailler votre cœur, de débarrasser votre cœur de l'incrédulité, de l'immoralité, de la jalousie, de tous ces sentiments négatifs. La parole. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des liens. Nous avons des choses qui nous maintiennent loin du Christ. Des choses desquels il veut nous affranchir. Et pour cela, il faut que nous le remettions notre cœur. Il n'y a que lui, et lui seul qui a le pouvoir de nous libérer de toutes ces choses et de faire de nos vies des vies véritablement libres. Alléluia. Et encore, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés. » Comment ? Par le renouvellement de l'intelligence. À chaque fois que notre intelligence est en contact avec le Saint-Esprit au moyen de sa parole, eh bien notre intelligence est transformée. Et la transformation de notre intelligence entraîne inéluctablement la transformation de notre cœur. Alléluia et gloire au Seigneur. Oui, la parole du Christ, elle est esprit et vie. Voyez-vous, elle a la vertu, la capacité de nous transformer radicalement et de nous faire ressembler en lui. Et enfin, la prière. Voyez-vous, la prière, passer plus de temps avec le Seigneur, lui permet de transformer nos cœurs. Quand nous passons plus de temps avec Dieu, nous répandons nos cœurs devant lui, oui ou non? Eh bien, c'est une manière de lui donner nos cœurs, en disant, Seigneur, transforme mon cœur. Mon cœur est rempli de haine, mon cœur est rempli de jalousie, mon cœur est rempli de convoitise et de cupidité, de méchanceté de tout genre. Seigneur, débarrasse ce cœur de toutes ces choses. Et Paul l'exprime si bien pour nous montrer, mes amis, l'impact que Christ a sur notre vie, sur notre cœur, lorsque nous passons du temps avec lui dans la prière. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, eh bien, le résultat, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, oh, alléluia. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous le contemplons, plus nous plongeons nos regards dans sa personne rayonnante, eh bien, plus notre vie est transformée. Voyez-vous, il y a le reflet. Voyez-vous, nous reflétons la gloire de Dieu. Alléluia. Notre vie commence à rayonner de sa gloire. Pour terminer, mes frères, mes sœurs, eh bien, le Seigneur attend ce matin que nous lui donnions notre cœur, ce cœur rebelle, ce cœur rempli de haine et de convoitise, ce cœur rempli de méchanceté, de souillure, d'injustice, de calomnie, de mensonges, de tromperie, de cupidité, de vice, de médisance, de calomnie, ce cœur orgueilleux, ce cœur fanfaron, ce cœur hautain, fourbe, incrédule, ce cœur plongé dans les ténèbres morales et spirituelles, ce cœur rempli de pensées coupables. Lui donner ce cœur aujourd'hui dans la repentance et faire appel au sang qu'il a versé à la croix afin de nous purifier de toute souillure, de toute iniquité. Amen. Je vous prie d'incliner vos têtes dans la prière et je vais donc donner l'occasion à chacun de nous de pouvoir répondre favorablement à la demande de Dieu. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je voudrais qu'il y ait des gens qui répondent favorablement à cette demande. Je suis le premier. Je voudrais lui donner mon cœur. Alors, si tu aimerais donner ton cœur au Seigneur, ce cœur incrédule, ce cœur méchant, ce cœur cupide, ce cœur souillé par toutes sortes de pensées coupables, eh bien, lève-toi. Je suis le premier à me lever, à dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Merci pour ceux qui se lèvent. Nous sommes au premier dimanche de l'année, et je crois que c'est une occasion pour nous de répondre favorablement à cette invitation, à cet appel, mes amis, à cette demande de la part du Seigneur de lui donner notre cœur. Alors, prions. Si nous devons nous repentir, eh bien, implorons son pardon. Dites-lui, Seigneur, je reconnais que mon cœur est un cœur immoral, c'est un cœur méchant, c'est un cœur désobéissant. À plus d'une fois, tu m'as parlé, mais je n'ai jamais obéi. Mon cœur, Seigneur, est rempli de haine, Seigneur, de manque de pardon. Oh, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi et en même temps, lave-moi, purifie-moi dans ton sang, car je voudrais que mon cœur reste en permanence entre tes mains, afin que toi, en divin potier, tu puisses modeler ce cœur, lui donner la forme qui te convient. Prions. Oh, alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Notre Père, merci. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est devant toi, ô Dieu, que nous nous tenons. Toi, notre Créateur, mais aussi notre Sauveur. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous aimes, Seigneur, et dans ton amour, tu aimerais qu'un jour, nous puissions partager ton ciel de gloire. Tu aimerais, ô Dieu, qu'un jour, nous puissions, Dieu, entrer dans le repos éternel. Nous puissions expérimenter la félicité après laquelle, Seigneur, l'humanité tout entière languit et soupire. Mais pour cela, ô Dieu, nous devons apprendre à abandonner nos cœurs entre tes mains. Ce cœur rebelle, ce cœur incrédule, ce cœur méchant, ce cœur qui se plaît dans le mal, ce cœur, ô Dieu, qui trouve du plaisir dans les pensées coupables, ce cœur, nous te l'abandonnons afin que tu puisses, Seigneur, pardonner à ce cœur, tu puisses débarrasser ce cœur de toutes ces choses. Pardonne-nous, ô Dieu, et donne-nous, Seigneur, de marcher en nous appuyant sur toi. Seigneur, merci. Voilà, Seigneur, le cadeau que nous voulons te faire aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, te donner notre cœur afin que tu fasses de nos vies ce que tu veux, Seigneur. Après tout, ces vies, nous les tenons de toi, Seigneur. Oh Dieu, tu restes le maître, tu restes le Seigneur de nos vies. Nous voulons que tu en prennes soin, que tu débarrasses nos vies de tout ce qui les détruit, de tout ce qui les éloigne de toi. Oui, lave, purifie-nous. Merci Jésus de nous aider dans ce début d'année à répondre favorablement à ta démarche, Seigneur, de te donner notre cœur.